Suite au colloque qui s'est déroulé en avril dernier sur les chemins de Compostelle, votre invitée Isabelle Duchet nous dévoile les enjeux patrimoniaux, cultuels et culturels du pèlerinage de Saint-Jacques.
Nous en avions parlé sur Radio Présence. Les 4 et 5 avril dernier avait lieu à Toulouse un colloque exceptionnel visant à interroger les chemins de Compostelle au XXIe siècle. Les actes de ce colloque sont aujourd'hui sortis. Ils représentent deux magnifiques livres qui sont à mes côtés. Pour nous présenter l'essentiel de ces échanges, je reçois Christophe Alcantara, professeur des universités et directeur adjoint de l'IDETCOM, l'Institut du droit de l'espace, des territoires, de la culture et de la communication au sein de l'Université Toulouse-Capitole. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Et vous êtes aussi membre du comité international des experts de Compostelle.
Merci de m'accueillir.
Je vous en prie, il n'y en avait pas beaucoup dans le monde. Alors, c'est vrai que Compostelle, on en parle beaucoup, il y a quand même plus de 440 000 pèlerins chaque année qui sont sur les chemins et qui arrivent à Saint-Jacques. Le phénomène s'amplifie et interroge. Et lors de ce colloque, étaient présents de nombreux chercheurs, des historiens, des sociologues, et j'en passe, de 11 pays différents. Christophe Alcantara, qu'a apporté la diversité des profils à ce sujet d'étude ?
Alors, déjà, il faut remarquer que c'était la première fois que l'on interrogeait les chemins de Compostelle d'une façon aussi interdisciplinaire. Traditionnellement, et c'est normal, ce sont les médiévistes, les historiens, voire même les géographes qui interrogent Compostelle. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que Compostelle et les chemins de Compostelle sont devenus véritablement un enjeu de société, plutôt un phénomène de société.
J'allais dire, oui.
On est passé de 15 000 pèlerins comptabilisés à Compostelle en 1992 à 440 000 clairement identifiés au bureau des pèlerins de Compostelle en 2023.
Ça veut dire qu'on ne compte pas ceux qui n'arrivent pas à Compostelle et qui font le chemin par petits tronçons.
Exactement, on ne compte pas les tronçonneurs, donc il y a bien plus de 440 000 pèlerins sur les chemins. Il est difficile de les identifier tous, mais comptabiliser à Compostelle même 440 000. Donc on voit que derrière ce phénomène de société, il y a une appropriation de l'espace et en particulier de cette géographie historique, mythique et millénaire que représentent les chemins de Compostelle. Et aujourd'hui, nous devons l'interroger avec d'autres disciplines, telles que vous les avez citées, le droit, la sociologie, les sciences de l'information et de la communication, les sciences de gestion. Et nous avons eu la chance d'avoir quand même un plateau avec plus de 42 chercheurs venant des 5 continents. Et nous avons véritablement mis en exergue le fait que les chemins de Compostelle, sur un plan scientifique, c'est devenu maintenant un bien hybride, un bien complexe.
Alors justement, cette notion de bien complexe, elle a été utilisée par Jean Davalon, qui est professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Avignon. Il est intervenu, il a retenu 3 modalités officielles de patrimonialisation des chemins de Compostelle. Un patrimoine fait de monuments et de hauts lieux, un itinéraire culturel et troisièmement, un objet patrimonial intégral et complexe. C'est là qu'on arrive à cette complexité. À quoi elle est due, cette complexité ?
Cette complexité, elle est due à plusieurs choses. La première d'entre elles, quand on s'interroge sur les chemins, quand on interroge les chemins de Compostelle dans une logique patrimoniale, il faut revenir à l'accréditation qu'en a donnée l'UNESCO en France en 1998. Et vous avez donc 71 monuments. Vous avez un bien qui est constitué au fond de 78 objets, avec des sentiers, avec des monuments, avec du patrimoine matériel, donc quelque chose qui se voit chez nous, la basilique Saint-Sernin, éventuellement
l'abbaye de Moissac,
l'Hôtel-Dieu, où a eu lieu l'événement. Mais vous avez également des paysages. Vous avez également un dolmen. Un dolmen, alors vous pouvez me dire pourquoi un dolmen ? Bon, un dolmen parce qu'il y a une croix sur ce dolmen. Et si j'ose dire, c'est cette construction qu'en a fait l'UNESCO qui rend l'objet complexe. Et si l'UNESCO a véritablement sanctuarisé, si vous me passez l'expression, les chemins de Compostelle, c'est pour pouvoir le pérenniser et le transmettre dans le temps. Et donc, il faut que l'objet rencontre un public. Et aujourd'hui, le public qui va à Compostelle est un public varié, diversifié. Les croyants qui se déclarent croyants catholiques, éventuellement, sont très peu nombreux.
Il y a des chercheurs de sens aussi.
Exactement. Mais il n'en demeure pas moins que les marcheurs que nous avons, qui est à peu près 95% des gens qui sont sur les chemins de Compostelle, ce sont des gens qui cherchent, à travers cette horizontalité, vers cette allée pèlerin en direction de l'ouest, ce sont des gens qui recherchent une verticalité. Et cette verticalité, cette spiritualité telle qu'ils la recherchent et la définissent, demande une interrogation autour de cet objet complexe.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que justement, dans la protection offerte par l'UNESCO, vous le disiez, elle concerne des monuments. Et finalement, ce n'est pas ce que cherchent les marcheurs.
Alors, elle ne fait plus que concerner des monuments. Elle concerne des monuments, mais elle concerne également des sentiers ou des tronçons. Alors, ce que cherchent les marcheurs, c'est à la fois, on va dire que le patrimoine est la porte d'entrée pour eux, pour autre chose, vers cette allée pèlerin. Et je crois que beaucoup d'entre eux cheminent véritablement vers cette forme de verticalité, vers cette quête de sens. Il y a une quête de sens. Lorsqu'on interroge les gens, ils vont tous vous dire qu'ils font du slow tourisme, ils font un tourisme alternatif, ils ne recherchent pas nécessairement un tourisme de masse. Même si le tourisme de masse s'observe de plus en plus, lorsque l'on arrive espagnole. Dans la partie espagnole, lorsque l'on arrive vers Compostelle, lorsqu'on est vers ces chemins qui convergent vers le même espace. Mais tout ça pour revenir au fait que cette verticalité que recherchent les gens s'exprime par les chemins, à la fois par la rencontre avec des pierres. Souvent, certains d'entre eux vont vous dire « Mais je marche dans les pas de ceux qui m'ont précédé depuis quasiment 1000 ans. » Et c'est intéressant d'avoir cette information-là. Donc, on prend appui sur une mythologie, on prend appui sur une histoire millénaire que l'on s'approprie, sur une tradition, que l'on s'approprie d'une façon singulière, puisque je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est dans une société de plus en plus sécularisée. Donc, elle est à la fois sécularisée, mais elle recherche du sens. Donc, on peut interroger le phénomène par la sociologie, par la communication. Dans mon univers à moi, lorsque vous avez, dans la communication digitale, l'hashtag Santiago de Compostela, donc sur Instagram, qui est relayé plus de 750 000 fois, vous avez plus de 750 000 comptes, pas anodin, ce n'est pas rien. On a dépassé l'image touristique pour rechercher véritablement autre chose. Il y a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en ligne, assez peu de mise en scène de soi. Donc, s'il y a assez peu de mise en scène de soi, c'est que quelque part, on veut témoigner, on veut laisser une trace de ce passage. Et c'est en ce sens que les pratiques actuelles s'inscrivent aussi dans les pratiques, la pratique millénaire que mes collègues amis médiévistes, en particulier ma collègue Adeline Rucois, qui a coordonné ce colloque avec moi, observe depuis de très nombreuses années.
Mmh. Et c'est justement ce que je voulais vous demander. En tant que communicant, vous voyez bien que la communication autour des chemins de Compostelle évolue. Et vous dites que finalement, les gens montrent plus le chemin qu'eux-mêmes.
Tout à fait. Le chemin, lorsque j'ai mené, par exemple, de mon côté, une étude sur à peu près 4000 photos, donc 4000 photos sur des comptes Instagram, c'est pas anodin, un tiers des photos exprimées avaient pour sujet le chemin. Donc le chemin, que l'on appelle le Camino, est un objet à proprement parler, c'est plus qu'un objet, c'est un personnage. C'est quelque chose qui est identifié, c'est un personnage à proprement parler qui est mis en avant. Et cette communication digitale, qui est le fruit véritablement des témoignages des pèlerins en ligne, exprime au fond une viralité, un marketing viral, on dirait aujourd'hui, qui participe à développer les territoires traversés par les chemins de Compostelle. Ce qui nous amène sur un point très très important. Aujourd'hui, les chemins de Compostelle, avec leur histoire millénaire, sont de plus en plus instrumentalisés pour valoriser une économie rurale, pour également valoriser des territoires. Donc,
oui, c'est une source de revenus aussi pour les territoires traversés.
Exactement. Donc, Compostelle devient une marque territoriale, mais en même temps, cette marque ne doit pas être instrumentalisée au point de renoncer à ce qu'elle est, une histoire millénaire. Si vous avez eu deux papes qui sont venus trois fois sur les 40 dernières années, deux fois Jean-Paul II et une fois Benoît XVI, pour véritablement ancrer les chemins de Compostelle dans ce qu'ils sont, une histoire millénaire chrétienne, ce n'est peut-être pas pour rien. Mmh. Et ils ont réalisé ces visites en parallèle de l'appropriation par l'UNESCO et de l'appropriation qu'a proposé le Conseil de l'Europe à travers le fait de valoriser les chemins de Compostelle comme étant en 1987 le premier chemin, le premier itinéraire culturel européen. Et en 1987, on est pleinement dans la construction européenne. Donc on prend appui sur la mythologie des chemins pour montrer que l'Europe s'est construite sans frontières pour permettre à des gens de se déplacer pour aller vers cette allée pèlerin vers Compostelle. Donc vous voyez, c'est quand même assez paradoxal. À l'heure où on est dans une démarche de sécularisation, on a pris appui sur les chemins de Compostelle pour participer à construire l'Europe. Mmh. Et les deux papes que j'ai cités avaient pleinement conscience de cela, et leur voyage pastoral à Compostelle n'était pas anodin non plus. Il y a des enjeux de pouvoir et des enjeux politiques derrière, bien sûr.
Autre figure de l'Église, c'est Mgr Jean-Louis Brugues, qui est dominicain, évêque émérite d'Angers, ancien archiviste, et bibliothécaire du Vatican. Il était aussi présent à ce colloque et il a montré la chance pastorale que représente le patrimoine religieux. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que cette chance implique, Christophe Alcantara ?
Alors, c'est à la fois une chance pastorale, parce qu'à travers les objets religieux, on peut se réapproprier l'espace, les objets, mais également la verticalité qui est associée à l'objet. Mais en même temps, Mgr Brugues a démontré que la patrimonialisation des objets religieux avait tendance à les figer dans des musées.
Oui, c'est ça.
Or, ce sont des biens qui doivent être vivants. Donc, ces biens vivants nécessitent de les faire vivre, de les incarner, de se les approprier. Et il ne faut donc pas, au fond, son propos était de dire qu'il ne faut pas figer les chemins de Compostelle dans une logique patrimoniale et donc qui nous bloquerait vers une dimension culturelle. Nous avons un glissement du cultuel vers le culturel, ce qui est un phénomène naturel qui s'observe aujourd'hui, mais ce phénomène naturel doit être contrecarré, si j'ose dire, par une tension culturelle aussi, que l'Église se doit de se réapproprier, tout simplement.
Mais justement, comment elle pourrait le faire ?
Comment elle pourrait le faire ? Lorsque vous avez 440 000 personnes qui arrivent chaque année à Compostelle, je pense qu'un accueil dédié aux pèlerins, pour leur montrer que le sanctuaire ne se trouve pas au kilomètre zéro, au Cap Finistère, mais véritablement à l'intérieur de la basilique. N'oublions pas qu'un sanctuaire, c'est par définition un espace sacré.
Oui.
Et permettre à des gens qui s'interrogent de les aider à faire le passage entre l'espace profane et l'espace sacré, il y a là une médiation, et cette médiation doit être faite soit par des gens d'église, soit par des laïcs proches de l'église qui sont capables de donner cette acculturation que fondamentalement bien des personnes recherchent lorsqu'ils arrivent à Compostelle. Plus vous laissez un espace libre, plus cet espace sera investi par d'autres.
Oui, c'est ça. C'est une forme de catéchèse finalement que nos contemporains, enfin pas nos contemporains justement, les personnes qui visitaient les cathédrales il y a bien longtemps en fait trouvaient.
Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, étant donné que les gens qui se retrouvent à Compostelle, pour nombre d'entre eux, n'ont pas une pratique religieuse, les aider à donner du sens, et ne serait-ce qu'à comprendre l'espace dans lequel ils arrivent, ne me semble pas être anodin. Il faut des clés. Pas plus tard que l'année prochaine, nous allons avoir une année sainte. L'ouverture de la porte sainte, ce n'est pas rien. L'expliquer à des gens qui n'ont pas cette culture-là, c'est un moyen d'entrer avec eux dans un espace qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne demandent qu'à connaître, pour nombre d'entre eux.
Oui, c'est ça. Est-ce que pour les nombreuses régions et les pays qui sont traversés par ces chemins, doivent faire aussi un effort pour préserver la dimension spirituelle de ces chemins de Compostelle ?
Oui, je le pense, tout en sachant que l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'inscription également par le Conseil de l'Europe, donne véritablement une dimension importante qui est un levier de l'attractivité des chemins de Compostelle. Je pense qu'il y a un travail qui doit être réalisé d'une manière beaucoup plus marquée entre les collectivités locales et territoriales qui, à juste titre, parce qu'elles sont dans leur rôle, sont là pour valoriser le territoire et utilisent les chemins de Compostelle comme un levier économique, mais également par la présence des instances religieuses qui doivent être là également pour pour mettre en perspective, ne serait-ce que mettre en perspective cette histoire. Et cela peut se faire dans une tradition laïque qui existe chez nous depuis 1905, sans aucun problème.
Voilà, un travail encore à réaliser. Merci beaucoup, Christophe Alcantara, professeur des universités et directeur adjoint de l'IDEDCOM au sein de l'Université Toulouse-Capitole.
Merci journée. À vous.